Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute!
Bonjour Nathalie, bienvenue.
Bonjour Laetitia.
Alors on se connaît depuis quelques temps maintenant et je suis très contente de t'accueillir dans ce podcast parce que je trouve que tu as un parcours vraiment inspirant et assez singulier. Jalonné de plusieurs bifurcations, réflexions, changements d'horizon et aujourd'hui un métier finalement que tu as un peu dessiné sur mesure, que tu as designé pour toi. Donc on reviendra sur toutes ces étapes-là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier ?
Aujourd'hui, mon métier principal, parce que comme on verra après, j'ai plusieurs activités à chaque étape, mais mon métier principal, c'est d'être ce que j'appelle urbaniste engagé, c'est-à-dire que je travaille sur l'aménagement des villes, sur les projets des collectivités territoriales pour les accompagner. Et j'essaye de faire ça avec un angle écologique autour de la solidarité et d'inclure ces dimensions dans les projets urbains.
Comme tu l'as dit, effectivement, on fera un petit temps focus sur ce que c'est qu'une urbaniste engagée. Avant ça, on va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à designer ton métier ? Et je voulais savoir, du coup, tu débutes ta carrière dans la communication. Aujourd'hui, tu es urbaniste, c'est un petit peu le grand écart. Quelles ont été les grandes étapes, les points de bascule ?
Je pense qu'un point de bascule important, c'est la lecture d'un livre, comme souvent. C'est un livre qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde, que j'ai lu à 25 ans, en 2005. Et à l'époque, j'étais déjà sur un projet qui changeait un petit peu. J'avais monté une boîte de production de courts-métrages avec une copine rencontrée dans une formation. C'était un peu un test. On était vraiment en mode, on avait 25 ans, on essayait de faire ça. Ce n'était pas évident parce qu'on n'était pas dans un secteur qu'on connaissait bien. Mais du coup, on défrichait des choses et on lisait aussi pas mal. Et donc, moi, j'étais tombée sur ce bouquin. Et c'était un bouquin qui recensait beaucoup d'alternatives développées aux quatre coins du monde et qui m'avait beaucoup inspirée et donné envie de faire comme les auteurs, c'est-à-dire d'aller découvrir des initiatives qui venaient répondre à des enjeux sociaux ou environnementaux, ce qui était très éloigné de mon premier métier qui était plus sur la forme. Sur la communication, le web, et j'ai eu très envie à partir de ce moment-là de m'intéresser au fond et donc de creuser, c'était tout thème, hein. À l'époque c'était pas forcément l'aménagement, ça pouvait être l'économie sociale et solidaire, l'habitat, l'inclusion, donc il y avait plein de thèmes qui m'intéressaient, c'était une approche assez large au départ, et j'ai vraiment suivi cette envie pour commencer à faire des reportages au fil de mes voyages. J'utilisais pas mal mes vacances, en fait, pour ça, à cette époque, et ça a commencé comme ça.
D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, au début, tu avais un poste, un métier dans la communication, dans le graphisme, et puis tu te servais finalement de tes vacances pour aller explorer d'autres sujets.
Voilà, les premières fois, c'était plutôt au début de la vingtaine, j'avais plutôt une approche carnet de voyage photo, donc plutôt artistique. J'utilisais mes voyages pour faire ça. Et puis, forcément, quand on voyage, on voit d'autres choses, on rencontre d'autres modes de vie. Je me suis assez vite rendu compte des écarts qu'il y avait entre notre confort occidental et les problématiques auxquelles étaient confrontés mes amis du bout du monde. Et donc, ça a commencé à frotter un petit peu. Et puis, quand dans mon métier, mon premier métier qui était d'être graphiste, on imprimait beaucoup. Et à ce moment-là, je travaillais dans une agence qui faisait des événements. Et enfin, qui accompagnait les boîtes qui faisaient des événements sur toute leur com imprimée. Et ça me rendait malade de voir tous ces flyers, tous ces programmes qui avaient une durée de vie inférieure à une journée et qui finissaient à la poubelle après des mois de conception. Et je me suis dit que c'était pas possible de. Enfin, moi, je me voyais pas continuer à faire ça, ça faisait pas du tout sens. C'était en 2003. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un break. Je suis partie de cette entreprise. J'ai obtenu... c'était pas une rupture conventionnelle à l'époque. Je ne sais plus comment on avait fait. Mais on avait trouvé un accord pour que je puisse partir en ayant un petit peu de chômage. Et c'est comme ça que j'ai fait cette formation dans la vidéo, qui était une passion de ma jeunesse et à laquelle j'ai eu envie de revenir pour voir si je pouvais faire quelque chose dans ce milieu-là et du coup ne plus imprimer.
Donc une formation dans la vidéo, effectivement, et ça te mène à quoi, du coup, cette formation ?
Eh bien, à la création de la fameuse boîte de production dont je parlais tout à l'heure, donc, qui était vraiment une première expérience entrepreneuriale très riche d'enseignements, puisque je pense qu'on a fait à peu près toutes les erreurs possibles. on est en pleine de bonne volonté et en ayant un beau projet social. Voilà, on voulait créer des films qui donnent des billes et qui aident des personnes en difficulté. Donc, on voulait traiter de thématiques assez sociales. Moi, j'avais rejoint donc cette personne qui portait ce projet au départ pour le faire ensemble. Mais voilà, on avait pas de budget, enfin, on était très jeunes, on n'avait aucune économie, donc pas de quoi nous retourner. Elle était au RSA, enfin bon, elle n'avait pas beaucoup de temps devant elle pour que ça fonctionne. On n'avait pas de réseau, enfin on avait toutes les difficultés possibles, mais on a quand même réussi, voilà, petit à petit à développer le réseau, trouver des auteurs, commencer à créer des projets. Mais ce qui a buté, c'était le fait de pas trouver très rapidement des financements pour lancer la réalisation de ces films et pouvoir avoir des budgets de fonctionnement. Donc, c'était un peu la conséquence de l'inexpérience. On ne savait pas que ça prenait très longtemps, en fait, et qu'il fallait avoir un fonds de roulement. Donc, on n'a pas pu continuer, même si ça nous plaisait. Et moi, comme j'avais ce métier quand même de base, qui était la communication, et notamment, j'avais appris à faire des sites web de plus en plus. J'avais pas mal fait ça pendant qu'on avait créé la boîte de production, en fait, pour payer les charges, etc., de l'entreprise. Je faisais des sites web. Donc, j'avais quand même gardé un pied dans mon ancien métier, mais sur la version uniquement web. Et donc, j'ai pu en fait rebondir comme ça en disant finalement, cette expérience, elle était intéressante, mais je ne me vois pas avoir aucun revenu pendant 10 ans, le temps que ça fonctionne. Je ne suis pas passionnée à ce point-là. Donc, je vais rechercher un boulot en capitalisant sur tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, de la création graphique, du web, de la vidéo et puis de la gestion de projet, du coup, puisqu'on était co-gestionnaire de l'entreprise. Et donc, j'ai trouvé un poste, j'avais 26 ans à ce moment-là, j'ai trouvé un poste de responsable multimédia. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur cette partie-là, c'est que on pourrait dire que c'est un échec, puisqu'on a créé une entreprise et qu'elle n'a pas pu continuer. Mais au final, ça a été interprété positivement par des recruteurs qui ont vu ça comme la capacité à être responsable de l'unité dans laquelle je travaillais, alors que ce n'était pas du tout le cas avant, quand j'étais salariée, quoi.
Oui, c'est sûr. Ça montre bien effectivement l'importance de se lancer, d'oser, et même en cas d'échec, c'est une formidable expérience. Tu apprends dans tous les cas.
Oui, c'est ça. On a énormément appris parce que quand on crée une boîte, on fait tous les rôles. Donc, que ce soit la com que je connaissais, le business plan, aller rencontrer des partenaires, faire la compta, enfin tout ce qu'il faut faire, quoi, quand on fait une entreprise. Et puis trouver des idées, quoi, quand on se dit tiens, il va y avoir des charges, on n'a pas encore de rentrée, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, moi je sais faire des sites web, on pourrait faire ça. Enfin, et puis en fait, ça a fonctionné, ça nous a permis de quand même maintenir à flot le temps de tenter notre chance, quoi. Donc voilà, après c'est vrai que ce qui est très intéressant aussi dans le fait d'avoir testé, c'est que moi, ça m'a permis de voir que ce qui me plaisait vraiment, ce n'était pas la production, donc ce qu'on avait créé, mais l'écriture et la réalisation. et que du coup, ça faisait pas forcément sens pour moi de m'acharner sur cette dimension-là du milieu, et que je préférais en fait avoir un métier, un boulot principal, et passer du temps à côté sur mon temps libre à me former et à apprendre à réaliser des films en fait.
D'accord. Oui, donc c'est pour ça que tu as plutôt choisi à ce moment-là le fait de réintégrer finalement une vie de salarié classique. Est-ce que justement à côté tu as continué à développer tes projets, tes side projects à côté ?
Alors oui, j'ai développé un gros side project à côté puisque au bout de 6 mois, 1 an, je crois que j'étais en poste. C'est là que j'ai vraiment rencontré le sujet de la ville durable et de l'urbanisme que je connaissais absolument pas, qui n'était pas du tout dans le radar jusque-là et personne autour de moi était là-dedans. Et c'est vraiment en voyage que j'ai voulu mener l'enquête sur les énergies renouvelables. Je m'étais prise un peu de passion pour ce sujet à ce moment-là. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Donc, je suis allée rencontrer des porteurs de projets à l'occasion d'un voyage en Indonésie. Et de fil en aiguille, j'ai découvert aussi des problématiques autour de l'eau. Enfin, de façon un peu plus large, finalement, tout ce qui pénalisait les conditions de vie des personnes qui vivaient là-bas. Et ils m'ont parlé aussi de solutions qui étaient en train d'être mises en place avec l'aide de la collectivité, des chercheurs. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se dire, ah ben, c'est vrai qu'il y a des situations graves en termes d'aménagement dans certaines parties du monde, mais il y a aussi des personnes qui sont en train de déployer des solutions, de tester, d'essayer d'améliorer, et là, en l'occurrence, d'apporter l'accès à l'eau à ce village qui ne l'avait pas, quoi. Et donc ça m'a pas mal intéressée. De retour de ce voyage, j'ai voulu creuser ça. Je me suis inscrite à un cours du soir que j'ai trouvé à Paris à l'époque. Et vraiment, c'était pas pure curiosité. Et je pensais pas du tout en faire mon métier à ce moment-là. C'était pour comprendre en fait ces questions de territoire et d'écologie urbaine. Et c'est en arrivant aux portes ouvertes de cette formation que un des profs m'a convaincue de vraiment faire le master en entier. Et il m'a dit qu'il pouvait m'accepter en master 1 directement parce qu'ils avaient absolument besoin de gens qui venaient de la communication, dans le sens où c'était assez compliqué pour les commanditaires de comprendre les projets et tout ce qui était proposé par les spécialistes, ingénieurs, architectes, etc., de ces sujets, et qui trouvaient ça très pertinent que quelqu'un qui avait plus un cursus en communication, capable de formuler des messages, de mettre en forme, etc., puisse avoir ce croisement avec l'aménagement du territoire et aider les collectivités et les politiques publiques à mieux comprendre les recommandations techniques.
Donc là, on est sur une période, tu disais, 2-3 ans en cours du soir. Et après, qu'est-ce qui se passe au bout de ces 2-3 ans ?
Eh ben, en parallèle, en fait, donc on a ce groupe. Donc j'insiste dessus parce que je pense que c'est très important. Dans le cadre d'une reconversion, parce que là, pour le coup, moi, c'était vraiment une reconversion. Pour certains d'entre eux, c'était une évolution, mais moi, c'était vraiment un changement du tout au tout. Donc, je n'avais aucun réseau et ça risquait d'être difficile pour moi l'entrée sur le monde du travail, dans la mesure où il fallait quand même réussir à expliquer le fait que je n'avais pas fait géographie ou architecture ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était un peu quelque chose qui m'inquiétait des fois, où je me disais, est-ce que je vais vraiment réussir à trouver ? Comme j'avais ce groupe très soudé d'étudiants en reprise d'études, on s'entraidait. Et quand il s'est agi de faire des stages, hein, puisque c'était prévu comme dans n'importe quel master, c'est vraiment le même système qu'un master en journée, j'ai une de mes amies du groupe qui m'a dit « Ah bah tiens, là où je fais mon stage, elle avait commencé un peu avant moi. » Là où je fais mon stage, j'ai entendu parler d'une boîte qui fait de la concertation citoyenne et ça a l'air d'être un peu à la croisée de la communication et de l'urbanisme. Tu devrais peut-être aller les voir de la part de ma chef. Donc, j'ai écouté son conseil. Sur le moment, je me suis dit, je ne sais pas trop si j'ai envie de faire ça. J'ai plus envie d'être dans un bureau d'études d'urbanisme. Mais je suis allée les voir et il s'avérait que c'était intéressant parce qu'ils faisaient des agendas 21. Donc, c'était des contrats de territoire qui permettaient de réfléchir au développement durable d'une ville et de proposer des plans d'action avec les citoyens, de co-construire. Donc, ils m'ont proposé de m'occuper de ça pendant mon stage. Donc, j'ai dit « Ok, super, je viens ». Et donc, eux trouvaient mon profil parfait. Pour eux, ce genre de boîte, c'était vraiment le bon créneau quand on a fait de la communication et de l'urbanisme. Donc, il y avait vraiment un débouché évident que moi, je ne connaissais pas avant. Et puis, j'ai fait ce stage et j'avais quand même cette envie d'aller tester un bureau d'études, donc c'est-à-dire de faire plus du diagnostic et du projet urbain, vraiment de dessiner et de proposer des idées d'aménagement. Donc il y a la phase un peu amont de la concertation et donc j'ai postulé, en fait j'ai fait ce que j'ai fait un peu à chaque fois que j'ai cherché du boulot, c'est-à-dire que j'ai regardé toutes les boîtes qui existaient à Paris à l'époque, j'ai regardé celles qui m'intéressaient, j'en ai choisi un top 5 et je leur ai fait des lettres de motivation très personnalisées en étant force de proposition, en leur disant voilà, si je viens faire mon stage chez vous, je pourrais amener ci, je pourrais amener ça. J'avais mis quand même que c'était de la part de la boîte où je faisais mon stage d'avant parce qu'ils se connaissent un peu tous dans le milieu, donc j'avais mis que je faisais mon stage là et qu'ils pouvaient les appeler s'ils voulaient. Et en fait, j'ai pu avoir un deuxième stage dans une boîte qui ensuite voilà, m'a embauchée, qui a été mon premier employeur dans le secteur, où j'ai pu faire plein de projets super intéressants, toujours au croisement du développement durable et de l'urbanisme.
Et donc, on en a un petit peu parlé. Toi, ton sujet, finalement, c'était un petit peu la ville durable. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est une urbaniste engagée ?
Alors, en fait... Je précise engagé parce que c'est vrai que urbaniste, c'est très, très large. Je crois que dans le référentiel de certification des urbanistes, il y a 8 ou 9 façons d'être urbaniste. Enfin, c'est plein de sous-métiers. Pour moi, vraiment, depuis le début, ce qui m'intéresse, c'est de solutionner les enjeux écologiques et les enjeux de société en lien avec la ville. Donc, j'ai une approche très mode de vie usagée qui est assez proche des sociologues aussi. Et c'est vraiment le fait de pouvoir améliorer les choses, transformer les choses, et pas simplement le fait de se dire il y a un terrain qui se libère, qu'est-ce qu'on peut construire, quelle forme on peut construire. Ça va être plus le rôle de l'architecte, de penser le paysage, la forme urbaine. Moi, je ne me positionne pas du tout là-dessus. Je suis beaucoup plus sur le lien entre la collectivité et l'usager, sur les besoins réels, hein, et puis de plus en plus, avec ma sensibilité écologique, sur les enjeux de plantation en ville, pour rafraîchir, pour la biodiversité, pour le paysage aussi, l'ombre, et puis les enjeux de piétons, de piétonisation, tout ce qui touche à la mobilité et qui permet d'améliorer la qualité de l'air dans nos villes, puisque une des grandes préoccupations des urbanistes aujourd'hui, quels qu'ils soient, puisqu'aujourd'hui on est quand même majoritairement des urbanistes engagés, parce qu'avec la nouvelle génération, c'est une préoccupation constante des gens qui sont arrivés sur le marché du travail depuis 10 ans. Vraiment, la préoccupation, c'est de garder des villes vivables, voire de les rendre plus vivables quand elles ne le sont pas, parce que c'est le seul moyen de préserver les terres qui ne sont pas encore construites, en fait. De préserver des forêts, de préserver des champs agricoles, de préserver nos campagnes. Il faut arriver à habiter les villes de la façon la plus agréable possible pour l'humain, de façon à ne pas continuer ce qui a été, les décennies précédentes, un saccage des terres naturelles qu'on ne pourra plus jamais récupérer.
Ok, c'est hyper intéressant. Oui, cette notion de ville vivable que je ne connaissais pas, qui est hyper intéressante. Et alors du coup, je sais que dans ton parcours, il y a eu aussi un engagement bénévole, militant, qui a été assez fort. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cet engagement a façonné finalement ta manière de pratiquer aujourd'hui ton métier ? Qu'est-ce que ça a dessiné pour toi ?
Alors oui, effectivement, ça a été presque tout le temps en parallèle, puisque depuis 2009, au moment où j'ai commencé mes stages, donc quand je finissais mes études,
J'ai été dans des associations environnementales. Et donc, à l'époque, c'était une association qui militait pour un éco-quartier à Paris et qui essayait de défendre des principes d'aménagement durable sur un gros éco-quartier qui était en train de se créer. Donc, ça m'a permis, en fait, de rencontrer des acteurs, d'entendre des spécialistes de ces sujets et donc de progresser sur des sujets qui ne nous étaient pas du tout enseignés à l'époque. Donc, c'était un peu une sorte de formation parallèle. J'ai toujours cherché dans le milieu associatif à apprendre ce qu'on ne pouvait pas apprendre autrement. Et par, voilà, par la transmission d'expérience des gens qui ont l'habitude et qui connaissent ces sujets. Donc, on avait le réseau Action Climat, on avait des, voilà, des personnes assez engagées. Et quand j'ai quitté Paris, je suis arrivée à Lyon en 2013. Et ça a été un petit peu compliqué au début de retrouver des acteurs, parce que quand on change de ville, il faut savoir voilà, qui s'occupe de quoi. Donc, au début, je ne savais pas. Et puis, j'ai fini par trouver des portes d'entrée un ou deux ans après, en cherchant bien, et donc je me suis engagée dans le mouvement climat, qui là aussi m'a appris plein de choses, alors plus tant sur le fond, parce que je commençais à bien connaître par moi-même, j'avais eu l'occasion de faire beaucoup de veille sur les enjeux climatiques des villes, mais par contre c'était sur le processus et sur les méthodes où j'ai complètement découvert dans le milieu associatif l'intelligence collective, les outils en fait qui permettent de faire travailler ensemble en groupe et y compris en très grands groupes les personnes pour rassembler un maximum d'idées et de connaissances, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant en termes de mode de faire. Donc je me suis un peu spécialisée là-dessus, à la fois dans le milieu associatif parce qu'on m'a laissé prendre pas mal de responsabilités très rapidement, c'était un mouvement qui permettait ça, et puis j'ai réussi aussi à convaincre mon entreprise de nous financer une formation collective pour une trentaine de personnes à l'agence, pour qu'on se forme aussi à ces outils et qu'on puisse les proposer aux collectivités dans le cadre de nos missions. Donc, je suis devenue petit à petit, grâce à une découverte imprévue dans le monde associatif, la référente des pratiques de co-construction et d'intelligence collective dans mon entreprise.
Finalement, là, tu nous as parlé de l'intelligence collective. Comment tu t'es servi d'expériences passées pour donner plus de relief, pour enrichir ton métier actuel? Je pense notamment à la communication, on en a un petit peu parlé, l'intelligence collective. Est-ce qu'il y a eu d'autres, est-ce que tu as d'autres exemples de compétences que tu as pu transposer d'un univers à l'autre?
Alors, je pense que la communication, c'est intéressant d'y revenir, c'est qu'effectivement, alors je ne fais pas du tout de site web ou de choses comme ça, c'est vraiment une transposition, c'est-à-dire que c'est un métier qui m'a appris à penser la communication dans le sens, le lien avec l'autre, et de comprendre ce qu'attendent les personnes qui reçoivent le message. Parce qu'en communication, il y a une personne qui envoie le message, une personne qui reçoit le message. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout le logiciel de pensée des techniciens de la ville, qui mettent en pratique ce qu'on leur a appris à faire, mais qui ne se mettent pas à la place du destinataire. Et donc, c'est quelque chose que je peux vraiment apporter dans mes missions, cette empathie pour l'usager, et le fait de penser à, voilà, à intégrer les différents points de vue, à avoir un autre regard, et puis aussi pour la mise en forme des messages, c'est-à-dire que formuler des messages intelligibles selon les publics, selon si on s'adresse à des élus, selon si on s'adresse à des techniciens ou à de la population, plus société civile, citoyen. On ne va pas du tout formuler les choses de la même manière parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes d'information. Et donc ça, pareil, ce côté un peu traductrice, c'est vraiment quelque chose qui vient de la communication et qui a fait pas mal la différence et pour laquelle je suis beaucoup sollicitée. Donc aujourd'hui, je me retrouve à faire pas mal de guides pratiques, de documents qui vont clarifier, permettre de diffuser des retours d'expérience, puisque c'est assez facile pour moi de mettre en mots et en images les projets réalisés ou en cours. Là où d'autres vont être beaucoup plus sur de la cartographie, sur des concepts techniques. Donc, ça se complète très bien avec des collègues avec qui je travaille. Donc, ça, c'est un des pans. Et puis après, on a parlé tout à l'heure de mes engagements pour le climat. C'est un sujet que moi, j'ai choisi d'investir, qui n'était pas inhérent à la formation d'urbaniste à la base, même si c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, et que j'ai cru comprendre que dans les formations actuelles, les jeunes sont beaucoup plus formés à ces enjeux. Moi, ce n'était absolument pas le cas entre 2007 et 2009. Je me suis formée toute seule, et donc j'ai pu l'amener aussi dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment où ce n'était pas encore inné dans les missions, moi, j'insistais beaucoup sur ces sujets dans nos études, ce qui a fini par capter l'attention de certaines collectivités qui nous ont demandé si on pourrait les accompagner sur la réalisation d'un plan climat, énergie, air territorial. Donc, ça a permis de créer en fait une nouvelle offre dans mon entreprise en essayant de répondre à cette question. Donc, on était complètement sur de l'innovation, entre guillemets, dans le sens où on ne le faisait pas encore. Il y avait personne qui savait le faire ou qui connaissait la méthode. Donc, j'ai défriché le sujet avec l'aide de collègues qui étaient intéressés par les sujets environnementaux. Et on a pu commencer à développer cette offre. Et là, on en fait deux en ce moment. On va peut-être en faire un troisième. Donc, ça illustre aussi comment les croisements avec les centres d'intérêt personnel peuvent être aussi intéressant dans le cadre du métier au quotidien quand on arrive voilà, à trouver des croisements qui sont intéressants.
Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont, peut-être pour qu'on comprenne mieux, quels sont les enjeux écologiques aujourd'hui qui se dessinent à travers cette notion de ville durable ou oui, peut-être dans le fait de préserver une ville vivable pour tous?
Eh bien, aujourd'hui, sur nos territoires, disons que nous, on est à Lyon, donc je connais bien les enjeux locaux. Clairement, ce qui va se poser le plus, c'est les enjeux de sécheresse et de canicule. C'est ce dont on pâtit le plus. Et puis aussi des sols, c'est-à-dire le fait que les sols ont été très dégradés par les pesticides et de plus en plus par les aléas climatiques. Donc, ça pose des problèmes en termes de production de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment les gros enjeux qui se posent à plein de territoires et en particulier notre région est très concernée par cela. Donc, quand on fait un plan climat, par exemple, on va regarder tout ce qui est possible de faire en termes de plantation, végétalisation. C'est vraiment un sujet qui est crucial parce qu'il répond à la plupart des enjeux environnementaux. Et notamment face aux canicules, on ne peut vraiment pas faire sans, puisque aujourd'hui, une des plus grosses dépenses énergétiques des villes, c'est la climatisation. Donc, tant qu'on ne rafraîchit pas les villes et qu'on ne crée pas de l'ombre, on va susciter une demande croissante de climatisation qui, elle-même, génère énormément de gaz à effet de serre et vient aggraver le dérèglement climatique. Donc ça, c'est un des enjeux centraux. Et puis, on parlait tout à l'heure de la qualité de l'air. Donc, c'est lié évidemment à la voiture. Hein. En France, la source majoritaire de consommation d'énergie fossile, c'est la voiture, puisqu'on a de l'électricité pour la plupart de nos autres activités. Malheureusement, ça crée une pollution très importante qui altère la santé de la population. Donc, c'est pour ça que les urbanistes ont très à cœur d'essayer de réduire la présence de la voiture en ville et de développer toutes les aménités possibles, que ce soit des aménagements piétons, cyclables, des espaces publics agréables, pour donner envie de se déplacer à pied, à vélo, en trottinette et de prendre le moins possible la voiture, au moins pour les trajets courts qui sont aujourd'hui encore trop réalisés en voiture alors qu'il y a des alternatives.
Je sais qu'à côté de cette activité qui est déjà, il y a déjà plusieurs activités en une finalement, à côté de ça, tu accompagnes aussi les personnes qui sont en transition professionnelle notamment grâce à un outil qui s'appelle l'Ikigai. Donc j'aimerais déjà si tu peux nous en dire un petit peu plus et puis la deuxième question c'était pourquoi tu as voulu accompagner ces personnes en transition professionnelle.
Alors en fait donc l'Ikigai déjà qu'est-ce que c'est même si ça commence à être de plus en plus connu, c'est une philosophie de vie qui vient du Japon et qui aide à équilibrer en fait à trouver sa juste place au niveau professionnel et personnel en se concentrant sur les activités qui apportent le plus de joie et de sens vraiment au quotidien, donc cette notion de quotidien pour activer ses talents et contribuer aux enjeux de société. Pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce que je suis curieuse et qu'un jour je suis tombée dessus et que j'ai trouvé que c'était c'était un outil intéressant qui venait structurer et mettre des mots sur des réflexions que j'avais depuis longtemps et que j'essayais de m'appliquer, mais sans avoir vraiment un outil de référence. Et du coup, quand je l'ai trouvé, j'ai eu envie de le partager à tous mes amis qui n'étaient pas forcément dans cet équilibre de vie, qui pouvaient se plaindre beaucoup de leur travail, par exemple, sans forcément oser le quitter non plus. Et donc, d'essayer de les aider à utiliser cet outil et à faire le point avec. Et ce qui est ressorti de cette diffusion de l'ikigai autour de moi, c'est que les gens n'arrivaient pas à se l'approprier seuls. Et il y en a qui me demandaient de les aider. On échangeait autour d'un café pour arriver à utiliser cette approche et puis à se poser les bonnes questions. Et j'ai eu l'idée à l'occasion d'une fête, on m'avait demandé d'animer un atelier quelconque, tout le monde devait proposer des idées, et je leur ai dit, pourquoi pas l'ikigai, c'est ce qu'on me demande le plus en ce moment, donc je peux vous présenter ça. Et donc ça a très bien fonctionné, il y avait 10-15 personnes qui sont venues à cet atelier, entre amis, quoi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu des demandes comme ça, mais ça s'est fait vraiment assez naturellement. Ce n'est pas du tout moi qui l'ai recherché, jusqu'au moment où une amie commune t'a parlé du fait que j'avais commencé à faire ces activités et qu'on a pu imaginer ensemble un format qui pourrait être proposé de façon professionnelle aux personnes en évolution qui avaient envie d'apprendre à faire leur ikigai.
Et alors, du coup, tu disais tout à l'heure que tu as découvert un peu par hasard cet outil. Dans ton parcours, moi, je voulais savoir comment, finalement, il a influencé la suite de ton parcours et comment il influence aujourd'hui ce que tu fais.
Alors, en fait, je pense qu'il est tombé à un bon moment parce que c'était un moment où j'avais plus de nouveaux projets. Et moi j'aime bien avoir au moins un nouveau projet en ligne de mire tout le temps parce que je fonctionne comme ça depuis toujours en mode projet et j'étais un peu arrivée à un moment où j'avais réalisé le voyage de mes rêves, j'avais trouvé le poste qui me convenait, je vivais dans une ville qui me plaisait, enfin il n'y avait plus forcément de choses à atteindre, en tout cas que j'avais envie de réaliser, de concrétiser, et donc je me suis dit que c'était bien de faire un peu un bilan de tout ce que j'avais fait, de ce qui m'avait plu, et puis de voir qu'est-ce qui me donnait envie pour la suite, et donc l'Ikigai m'a aidée à ça, et a fait émerger le fait que j'avais finalement pas forcément mené au bout cette idée de film, de faire un film, que j'avais un petit peu laissé au moment où je me suis lancée dans l'urbanisme. J'ai plus du tout fait de vidéo, je ne suis plus intéressée à ces sujets-là. Et c'était un peu la chose inachevée. J'ai eu envie de creuser cette piste et de la croiser, puisque c'est le principe de l'ikigai, de croiser ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire avec des causes, de la croiser avec une cause qui me tenait à cœur et qui était en lien avec l'évolution professionnelle et le fait que j'étais assez choquée par la quantité de personnes qui subissent leur travail, qui perdent leur temps, leur talent, leur énergie, qui souffrent vraiment au travail, et notamment autour de moi, et qui vivent des tensions assez invivables avec leurs valeurs. Donc ça me questionnait beaucoup et j'ai eu envie de monter un projet de film documentaire sur cette question du sens au travail et aussi de comment est-ce qu'on peut agir dans son travail pour respecter ses valeurs et développer des solutions qui fassent honneur à ses valeurs. C'était vraiment à la fois un sujet prétexte et puis l'envie de me frotter vraiment à la réalisation d'un film en me disant c'est pas sorcier, je vais apprendre, je vais trouver du matériel, je vais y aller et puis j'apprendrai en faisant. C'est devenu mon side project, mon projet personnel dont j'ai posé les bases en 2018 en écrivant un petit peu le principe et en commençant à chercher des témoins. Et j'ai commencé vraiment à filmer l'hiver 2018-2019 Et puis, je suis aujourd'hui sur la finalisation du montage, puisque le principe d'un side project, c'est aussi que ça peut prendre un petit peu de temps, puisqu'on fait ça sur le temps libre qui reste après tout le reste. Mais c'est un projet qui m'a amené à faire des dizaines de rencontres passionnantes avec des personnes qui sont notamment ce qu'on appelle des intrapreneurs, donc qui portent des projets, des initiatives limites entrepreneuriales au sein d'une entreprise, donc en dépassant les contraintes d'une structure existante.
C'est super riche tout ça, et je me dis que moi qui te connais, des fois c'est vrai que j'ai du mal un peu à suivre, j'espère que les auditeurs on les aura pas perdus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités en même temps, un peu ce qu'on appelle une serial reconvertie, aujourd'hui une slasheuse du coup parce que plusieurs activités, on l'a vu, ton métier d'urbaniste engagé, le fait d'animer des ateliers sur l'ikigai, ce documentaire qui est en finalisation. Moi, j'ai envie de te poser la question, comment finalement tu arrives à passer de l'envie, puisqu'on a tous des envies de faire plein d'activités, des passions, à l'action? Comment on passe de la réflexion à l'action?
Moi, je crois que c'est l'enthousiasme. Hein. Vraiment, je pense qu'à chaque fois que je me suis lancée dans une nouvelle piste, c'est juste que je ne pouvais pas faire autrement parce que ça me motivait trop et que du coup ça devenait un peu obsessionnel. Donc je pense que c'est un peu ça le déclencheur. Peut-être aussi, alors ça je pense que c'est ce qui fait que je passe à l'action, parce qu'au final ça serait beaucoup plus dur pour moi de ne pas passer à l'action, vu que j'ai envie. Mais après, ce qui fait aussi que je m'autorise à passer à l'action, et je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est ce que je disais plus tôt dans le podcast, le fait d'avoir très tôt cherché à me confronter à des aventures et à des situations difficiles, parce que je savais que ça serait formateur et que ça m'aiderait à faire tout ce que je voudrais faire. C'est-à-dire le fait d'oser et de pas avoir peur fait que finalement la moindre idée qui te passe par la tête et qui te semble intéressante et motivante, t'as pas peur de la tester, puisque tu sais que les autres fois où ça t'est arrivé, t'as réussi à le faire. Donc, je pense que c'est un peu ça qui peut jouer au-delà de l'envie, où effectivement, je pense que tout le monde a des envies et tout le monde ne les réalise pas.
D'accord. Donc, toi, ton conseil, finalement, ce serait plutôt effectivement d'aller de sortir de sa zone de confort, de se confronter vraiment à des rejets, à des situations compliquées, difficiles, pour pouvoir aller plus loin et se dépasser.
Voilà, plus ou moins progressivement. Après, là, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'y aller progressivement. Donc, ça peut être de d'abord aller aider des projets existants pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais que ça reste cadré. Il y a plein de façons de se confronter à des situations inhabituelles, et on n'est pas obligé de se mettre en danger comme je l'ai fait pour ça et de partir dans des endroits dangereux sans filet. Mais moi, c'est vrai que j'avais choisi cette méthode un peu accélérée parce que j'avais lu des parcours qui m'inspirait, qui avait fait ça. Et je pense que ça m'a aidé à pouvoir mettre en œuvre des projets dès la vingtaine. Mais je pense aussi qu'il n'est jamais trop tard et qu'on peut très bien, à tout âge, sortir de sa zone de confort en allant rencontrer des personnes différentes, un univers différent, en s'investissant quelques heures par semaine sur un projet juste parce qu'on le trouve sympa et qu'il y a une appétence et qu'il n'y a pas besoin de se poser mille questions aussi sur est-ce que c'est le bon projet ou pas. Rien n'empêche d'être bénévole quelques heures, quelques mois, et puis de changer d'avis après si il y a un autre sujet qui fait plus sens. Je pense que le plus important, c'est de passer à l'action, de se confronter au terrain, et de se rendre compte qu'on peut le faire, et que si on peut faire ça, on peut aussi faire l'étape d'après.
Moi, j'avais envie de te demander comment on passe d'un sujet à l'autre, parce que finalement, tu fais plusieurs choses en même temps. C'est un petit peu le propre des slasheurs, donc des métiers des gens qui cumulent différentes activités. Comment on passe d'un sujet à un autre sans se perdre?
Eh bien, on s'organise. Je pense que ça demande beaucoup d'organisation, en effet. Alors, il y en a peut-être qui le font en bande désorganisée. Moi, je ne sais pas faire. Effectivement, à partir du moment où je prends des engagements, je les tiens. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans mon agenda. Et à partir du moment où ils sont dans mon agenda, bah, j'arrive à anticiper ce qu'il faut faire pour chacun. Après, il y a aussi des priorisations. Comme je te disais tout à l'heure, le film, il prend du temps. Il a commencé juste avant janvier 2019. 2 ans et demi plus tard, il n'est pas terminé. Donc, ce n'est pas la temporalité de quelqu'un qui ferait que ça. Donc, il faut aussi accepter que les choses prennent du temps, que parfois, il y a des priorités qui viennent s'inscrire. Donc, par exemple, le fait d'avoir lancé les ateliers Ikigai parce que ça faisait sens et que j'avais envie d'être en lien direct avec les gens sur le terrain, de concrètement les aider au quotidien. Ça a pris du temps de structurer cette offre et d'animer les ateliers. C'est du temps que je n'ai pas consacré au montage du film. Mais parce qu'à ce moment-là, ça m'a paru faire plus sens de faire ça. L'opportunité se présentait, c'était le moment de le faire. Et je me suis rendu compte aussi que c'était super riche d'avoir ce lien direct avec les gens sur ce qui les motive, sur leurs rêves, leurs projets, et que c'était différent d'être derrière mon écran à faire du montage, et que peut-être pour moi, dans ce moment-là de ma vie, c'était aussi plus ça que j'avais envie de faire. Donc il faut voilà, aussi accepter de switcher d'un truc à l'autre, de se dire que ben, ça on l'a commencé, on le finira plus tard, et puis on fait de la place pour autre chose, et puis d'y revenir après. Donc je pense qu'il y a pas mal la notion de phasage, de priorisation, et puis quand même beaucoup d'organisation et d'avoir un agenda bien structuré pour pouvoir mener les différents projets en parallèle.
Merci beaucoup pour cet échange passionnant et tous ces apprentissages que tu nous as livrés. Je te dis à bientôt.
Oui, à bientôt. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et ravie de contribuer à ce nouveau podcast plein de promesses.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.